Vous êtes sur RTL.
Bonjour Pascal, merci à vous. On vous retrouve lundi sur l'antenne d'RTL. Quant à nous, Hélène de Fougerolles est notre invitée jusqu'à 15h30 sur RTL. Elle va nous parler de sa fille, Shana, une jeune fille différente. Elles sont parties chacune à la rencontre de l'autre. Ça dure une heure et ça commence maintenant sur RTL.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi sur l'antenne d'RTL. Je suis heureuse de vous accueillir dans En effet pour s'entendre. Vous savez, c'est l'émission qui vous ressemble, dans laquelle on s'écoute et dans laquelle on apprend. C'est un grand entretien que je vous convie aujourd'hui jusqu'à 15h30 avec une femme que vous avez toujours connue sur les écrans. Mais est-ce vraiment connaître quelqu'un que de se fier à son image? Hélène de Fougerolles est l'auteur d'un livre paru chez Fayard. T'inquiète pas maman, ça va aller. Car Hélène est la maman de Shana, une jeune fille différente qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Mère et fille ont appris à se connaître en dépit du déni, des épreuves et des jugements hâtifs. Et c'est leur histoire qu'elle veut bien nous raconter aujourd'hui pour aller plus loin. En tout cas, je l'espère. Bonjour Hélène de Fougerolles.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît en tant que comédienne, en tant qu'actrice donc. Et vous êtes auteur de ce livre « T'inquiète pas, maman, ça va aller » aux éditions Fayard. C'est votre petite Shana qui vous a dit ça un jour.
Elle me le dit tout le temps.
Et elle vous le dit tout le temps.
Encore aujourd'hui.
On a très envie de la connaître, cette jeune fille, en fait, parce qu'à travers les pages de ce livre, on a le sentiment que vous êtes allés, ça a pris du temps, mais à la rencontre l'une de l'autre. Est-ce que c'est un peu aussi l'objet de votre livre?
C'est exactement ça. Je parle sur le bandeau, c'est marqué « Changer son regard sur la différence », mais il fallait surtout commencer par le mien, de changer mon regard et de voir ma fille comme elle était vraiment et pas comme j'aurais voulu qu'elle soit ou comme on me demandait qu'elle soit. Quand je dis « on », c'est l'éducation, c'est voilà, tout ce qu'on a pu traverser parce que c'est une jeune fille différente, mais une jeune fille formidable. Et quand on la regarde avec le bon angle de vue, c'est une jeune fille formidable.
Est-ce que l'on peut dire aussi que vous-même, vous avez changé de regard et que la norme n'est plus la même pour vous?
Je trouve ça formidable de ne pas être comme les autres. Ouais. Évidemment, c'est vraiment un cadeau. Mmh. Et puis de voir le monde avec une autre façon d'appréhender tout, en fait. C'est extraordinaire qu'on puisse nous apporter ça.
Et pourtant, c'est une petite fille qui vous a surprise quand elle était toute petite, parce que vous avez, sans véritablement vouloir le voir, hein, mais vous vous êtes rendu compte qu'elle avait déjà un mode de fonctionnement singulier. C'est une petite fille qui a parlé tardivement. C'est une petite fille dont on vous disait qu'à l'école, elle était différente des autres. Et elle vous a prise par surprise, je dirais. On a mis du temps à comprendre qui était Shana.
Et moi, j'ai mis du temps à l'accepter aussi. J'étais beaucoup dans le déni et je connais pas beaucoup les enfants, donc j'arrivais pas trop à voir qu'elle était, qu'il y avait peut-être des retards ou qu'il y avait un trouble ou qu'il y avait une façon de faire comme le flapping. Pour moi, je trouve...
Alors le flapping, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est une façon de taper les mains dans le vide.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est de battre des ailes un peu. Ouais. Donc ça, c'est quand
de s'envoler.
Voilà, de s'envoler quand elle a des émotions. Elle a tout le temps fait ça, mais je pensais que tous les enfants pouvaient faire ça. J'avais pas fait attention que c'était une particularité. Et puis, voilà, c'est quand même une petite fille. Quand elle était petite, en tout cas, elle était toujours souriante, toujours contente. Elle a jamais été dans du mal-être. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et très sincèrement, il n'y avait pas de problème. Oui. Le problème venait de l'extérieur. On me disait qu'elle rentrait pas dans les cases et qu'elle était pas normale et que tout ce qui se passait avec cet enfant n'était pas normal. Mais quand on le regarde de l'intérieur, en fait, il n'y avait aucun souci. C'est juste qu'elle est différente. Mais elle n'a jamais été malade alors qu'on a passé des journées dans des hôpitaux. Donc c'est ça qui est un peu bizarre aussi.
On parle beaucoup du nomadisme, hein, médical aussi, hein, dans votre livre. Hein. Du nomadisme d'une maman qui, à un moment donné, essaye de comprendre aussi ce qui se passe.
Le nomadisme, ça veut dire on ne sait pas ce que c'est.
C'est être nomade. Ah. Donc, vous êtes allé voir des médecins, on vous a emmené d'un rendez-vous à l'autre, on vous a conseillé parfois d'aller à la rencontre d'un magnétiseur. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que vous avez mené l'enquête à un moment donné aussi pour essayer de comprendre quand on vous disait qu'il y avait quelque chose de différent.
Oui, en fait, il n'y avait pas de coordination. C'est-à-dire qu'on allait faire vraiment des prises de sang, après on allait faire des tests neurologiques, après... Et en fait, personne ne se parlait, donc on nous envoyait un peu faire de tout et n'importe quoi, mais on n'avait pas de retour, c'était à nous de rappeler pour demander, et alors est-ce qu'on a un résultat de ça, des analyses, qu'est-ce que ça donne, et il n'y avait pas de coordination de tout ça. Et il faut savoir que en France, pour avoir des diagnostics, là en ce moment, si on parle d'autisme, il fallait attendre un an et demi pour avoir un rendez-vous, et aujourd'hui je crois que c'est 9 mois, Je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, et sachant que nous, on a passé quand même, je dirais, les 8 premières années de ma fille, on les a passées dans les hôpitaux pour n'avoir aucun diagnostic.
Un grand chemin de solitude.
Voilà.
Avec une petite fille qui suit le mouvement.
Qui allait très bien, c'est juste qu'elle était différente. Heureusement, elle a traversé ça. Elle était avec ses parents, elle était contente, je crois. Puis elle ne savait pas qu'on pouvait plutôt aller faire de la danse ou d'aller voir des spectacles. Enfin, on en a fait aussi, hein. Mais elle ne voyait pas que c'était bizarre de passer ses journées dans des endroits comme ça.
En revanche, le malaise, Vous êtes plongé malheureusement dedans, parce que le fait de ne pas comprendre et le fait de ne pas savoir vous a plongé dans un vrai désarroi.
Oui, et puis il y avait cette théorie aussi sur ils appelaient ça le trouble envahissant du développement et du comportement, et qui était associé à de la maltraitance, peut-être des carences, et exclusivement maternelles en général. Donc on me faisait comprendre que c'était sûrement de ma faute, que je devais pas faire comme il faut. Et je pense que toutes les mamans ont ce petit complexe un peu de se dire, oh là là, je suis pas une bonne maman. C'est tellement facile en fait de nous culpabiliser, parce que tout à coup on a peut-être pas acheté bio, on a peut-être pas fait la purée, machin, on a fait 2 fois manger des pâtes dans la semaine. Enfin, vous voyez, tous ces trucs bêtes. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'était vraiment mon comportement qui était peut-être trop protecteur, qui était remis en cause, alors que évidemment, et encore aujourd'hui, je suis très protectrice, mais parce que j'estime que ma fille en a besoin. Elle est facilement vulnérable.
On va se retrouver dans un instant, parce que c'est un livre qui est très touchant, c'est un livre assez lumineux aussi, avec, j'ai le sentiment, une grande volonté de votre part, à un moment donné, d'aller à la rencontre de cette différence et de cette jeune fille qui vivait un peu dans sa bulle aussi, et cette communication que vous avez réussi à établir l'une avec l'autre. On se retrouve dans un instant, on est ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Toute la journée sur RTL, chaque auditeur qui passe à l'antenne remporte une carte cadeau Lidl de 50 euros à dépenser dans l'un des 1500 magasins Lidl partout en France. Félicitations.
C'est sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Hélène de Fougerolles est votre invitée pour un grand entretien en ce dernier jour de la semaine. Merci d'être à notre écoute et de nous être fidèles. Hélène de Fougerolles, votre fille s'appelle Shana. Votre fille est une jeune fille lumineuse, une jeune fille qui va bien, une jeune fille qui est en bonne santé, mais une jeune fille qui est différente. Là, je vous reçois, vous avez un sourire incroyable, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir à quel point vous êtes allée à la rencontre l'une de l'autre et à quel point vous avez appris et que vous-même, vous avez changé de regard sur la norme et sur la différence. On a le sentiment quand même que c'est un parcours de liberté, votre livre. C'est une façon de s'affranchir aussi, et des jugements hâtifs, et des différences, et des injonctions à une maternité parfaite, et en prenant en plus des... Enfin, vous avez pris l'histoire à bras-le-corps, vous avez mis du temps, vous avez été dans une phase de déni, on va en parler, et puis après, vous avez décidé qu'il était temps, quoi, d'être ensemble.
C'est pour ça, aujourd'hui, ce livre me ressemble... Enfin, ça m'a aidé à grandir, entre guillemets, si on peut dire ça. Au début, j'étais vraiment dans le déni, dans vouloir absolument rentrer dans un moule. Et puis aujourd'hui, je trouve ça génial d'être différent, c'est ce que je lui dis. Il ne manquerait plus que tu sois comme tout le monde.
Ouais. Et c'est vrai qu'on dit souvent que nos enfants nous révèlent à nous-mêmes. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir grandi d'une certaine façon au contact de Shana ?
Mais quand je regarde mon parcours, je me dis ok, alors c'est un peu spécial cette phrase, mais je me suis incarnée pour vivre cette aventure-là. Voilà, parce que cette aventure, elle a été immense. Je peux regarder en arrière maintenant et me dire waouh, il y a eu des moments particuliers, mais qu'est-ce que j'ai eu la chance de vivre ça, vraiment.
Shana va bien aujourd'hui ? Elle est dans le sud de la France ?
Non, elle est encore avec moi à Paris, on déménage vraiment en juin.
Super, donc nouvelle étape,
hein, c'est ça.
Dans votre vie, parce que le confinement a eu raison de votre vie parisienne. Hein.
Exactement.
C'est ce que j'ai cru comprendre, quoi.
J'ai acheté une maison dans le sud, j'y suis une semaine sur deux, mais je ne voulais pas enlever Shana de là où elle est en ce moment, comme ça, en plein milieu d'année scolaire. Pour l'instant, on a un endroit en septembre qui veut bien la recevoir, mais il n'y a pas d'internat. Donc, c'est un peu loin de chez moi. On va voir si... Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont prévus pour les enfants, enfin les jeunes adultes comme ma fille. Et puis, j'essaye de monter, moi, une maison. C'est avec Hélène Médic, ça s'appelle les maisons de Vincent, et elle m'a proposé de mettre en place la maison de Shana. Donc c'est pour accueillir des adultes autistes, avec un projet qui est adossé à l'agroécologie, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à faire peut-être des huiles d'olive, à faire des confitures, à aussi...
S'emparer de leur existence, quoi, d'une certaine façon.
C'est plus les mettre dans des instituts, mais au contraire, d'apprendre l'autonomie, d'apprendre à se développer, à développer leurs facultés et tout ça.
Quel âge elle a, Shana, maintenant ?
Elle va avoir 18 ans dans, le 20 mars.
Ah, génial. Qu'est-ce qu'elle fait, Shana, aujourd'hui?
Alors, Shana, elle a son monde à elle, qui est très vivant. Elle adore jouer. Elle a bientôt 18 ans, mais elle adore ses poupées, parce qu'elle rejoue beaucoup les scènes qu'elle a vécues. Alors, il y a des scènes dans la journée qui ont été pleines d'émotions. Elle a besoin de les recréer, de les revivre de cette façon. Elle a ses nounours aussi, avec qui elle dort beaucoup. On s'amuse à mettre des voix différentes. On peut parler à la place. Moi, j'aime bien aussi prendre des voix. Alors, c'est un peu particulier, mais j'adore vivre avec toute cette possibilité de se poser des questions, de répondre à la place d'autres. Tout à coup, je me mets à chanter avec une voix différente. Et enfin, voilà, je suis rentrée dans ce monde-là avec elle, parce que c'est drôle, parce que c'est vivant, parce que y a un petit peu de poésie là-dedans, je trouve. Voilà, donc moi, je rentre avec elle dans ce monde-là quand on raconte des histoires ou quand on, voilà, on est plusieurs.
Est-ce qu'elle peut être autonome ou pas ?
Alors, pas vraiment, dans le sens où elle n'a pas d'idée de l'heure. Elle s'habille, mais c'est parfois un peu à l'envers.
Ouais.
Voilà, j'ose pas la laisser sortir parce qu'elle ne sait pas regarder à droite et à gauche avant de traverser. Elle regarde ses pieds. Donc, je devrais pouvoir lui donner un peu plus d'autonomie, mais je suis peut-être un peu trop protectrice. J'aurais peut-être dû... Je trouve que le prix à payer est tellement cher si jamais elle se fait renverser par une voiture parce que je lui ai appris l'autonomie. J'arrive pas à le faire. J'arriverai peut-être plus à le faire quand on sera à la campagne et que ce sera peut-être moins dangereux qu'en pleine ville. Mais non, elle n'est pas autonome du tout.
Pourtant, vous l'avez laissée un jour, Shana, à l'île de Watt, hein, qui est une sorte d'endroit magnifique.
Il n'y a pas de voiture.
Voilà, exactement, qui est une petite île au large de
Belle-Île.
De Belle-Île, et dans laquelle il n'y a pas de voiture. Et un jour, vous avez pris sur vous, en fait, pour pouvoir laisser votre fille dans une forme d'autonomie en l'envoyant au village.
Exactement. Le village n'est pas très loin, c'est à 1,5 km. Et il n'y a qu'une seule route. Après, dans le village, il faut retrouver la même route, mais ce n'était pas très compliqué. Et je lui avais mis des petits papiers. Alors le premier c'était « Je m'appelle Shana, je suis perdue, est-ce que vous pouvez appeler ma maman avec mon numéro ?» Le deuxième c'est « Bonjour, je voudrais avoir » et j'avais mis la liste de courses mais il n'y avait pas grand-chose. Et le troisième c'était d'essayer d'appeler ma sœur qui elle vivait dans le village. Et moi j'ai un téléphone portable qui ne passe pas, donc c'était que le téléphone fixe. Bref, bon, c'était une grande aventure. Elle est revenue au bout de 2 heures, elle n'avait aucune course, elle a pleuré, elle ne savait plus où elle était, mais elle a fini par revenir avec un grand sourire, même si là-bas, elle a passé des moments un peu compliqués, parce que j'ai eu plein de messages après que j'ai retrouvés sur mon portable où elle pleurait, elle était perdue.
Si je vous demande de nous raconter ça, c'est que j'ai le sentiment aussi que accompagner des enfants qui sont les nôtres et qui sont différents, c'est être confronté à des émotions qui sont forcément multipliées, qui sont forcément exacerbées, et notamment l'inquiétude.
Et c'est vrai que pour beaucoup de choses, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour lui apprendre. C'est-à-dire que c'est trop difficile pour moi de la mettre en difficulté. En tant que maman, pour nos enfants, il y a certaines choses que je ne suis pas apte à faire. Je sais que je lui beurre ses tartines, voilà. Il y en a partout, sinon ça m'embête qu'elle mange un tout petit morceau de beurre et un énorme sur un côté. C'est bête, mais il y a un truc comme ça qui est maternel, qui est, ben oui, je vais lui refermer son manteau, et oui, je vais pas la laisser partir avec un seul gant. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais c'est un côté peut-être un peu trop, on me l'a reproché
mais
maternelle.
Vous revenez, mais... Alors voilà, c'est ça, vous revenez sans cesse là-dessus. Trop maternelle, parce que ça, vous l'avez beaucoup entendu.
Exactement, on me l'a beaucoup...
Mais on sent que c'est encore là, quoi.
C'est pire que ce que vous croyez, parce que j'ai Hélène Médic qui est venue chez moi il y a pas très longtemps avec sa fille et qui a 11 ans et elle l'embrassait devant moi et je me disais waouh, elle est courageuse de faire ça devant moi, et je me dis comment je peux dire cette phrase. Et en fait, moi, quand je suis avec Shana, je fais attention au regard des autres et je ne suis pas très maternelle avec elle. Je ne vais pas faire des gestes trop démonstratifs parce qu'on me l'a trop reproché, mais quand on est toutes les deux, la pauvre, j'arrête pas de l'embrasser, de la papouiller, de la chicoter, mais dès qu'il y a des gens, je me tiens.
Vous êtes en chemin encore, hein?
Ouais, c'est fou. Ben, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu Hélène avec sa fille et je me suis dit ça, c'est fou de réussir à faire ça devant les autres. Je me suis dit, ah, ok, ouais, je dois avoir encore un petit problème avec ça. Il y a beaucoup de personnes en France. J'ai l'impression que vous voyez, comme je suis allée à l'île Maurice, les enfants sont les enfants rois. On peut les embrasser. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au confort qu'on peut donner aux petits. Ouais. Et je trouve qu'en France, dès qu'on voit une maman qui est en train un peu trop de papouiller son enfant, je sais pas si vous avez ça, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ce regard.
Je m'en fous surtout, quoi.
Eh ouais, vous avez de la chance. Moi, j'ai tellement pris dans la gueule que je ne sais plus le faire.
Alors, on va revenir justement là-dessus, hein, si vous le voulez bien.
Ouais. Hein,
parce que vous dites, voilà, je suis tellement pris dans la gueule, parce qu'effectivement, être parent, c'est quelque chose qui s'apprend au jour le jour. Être parent d'un enfant différent, c'est encore une autre aventure. On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous entendez Hélène de Fougerolles. C'est notre invitée pour ce grand entretien jusqu'à 15h30 et vous faites la connaissance de Shana. Hélène et Shana, c'est toute une histoire que l'on retrouve dans son livre chez Fayard. T'inquiète pas, maman, ça va aller. Ou l'histoire d'une maman qui grandit en même temps que sa fille, je dirais. Mais une jeune fille différente. Il y a quelque chose quand même qui me touche, vraiment Hélène, qui m'a touchée à la lecture du livre et qui me touche maintenant que je vous rencontre. C'est cette interrogation sur la tendresse. Parce qu'on vous l'a reproché, cette tendresse. Vous avez eu une petite fille que vous sentiez peut-être inconsciemment plus vulnérable que les autres, différente peut-être déjà. Vous avez été dans une forme de déni que vous assumez parfaitement et c'est assez édifiant, c'est hyper intéressant de lire ces pages. Et on sent encore aujourd'hui que la tendresse est quelque chose qui ne va pas de soi parce qu'on vous a reproché d'être une maman tendre.
Ça ne m'empêche pas de continuer à l'être hein, avec Shana, on se tient toujours la main. Mais c'est vrai qu'elle s'asseyait toujours sur mes genoux, on se tenait toujours la main. Le petit dessin qui est sur la couverture où on a front contre front, Shana a fait beaucoup ça, mais elle prenait beaucoup de gens dans... Enfin, comme elle parlait pas, elle était très tactile aussi. Et puis on continue de l'être. Maintenant, c'est vrai que je fais pas forcément... je fais attention quand on regarde des autres.
Mais qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Alors, on m'a dit
c'est
que
ça
j'ai...
qui est important.
Alors, on m'a expliqué que l'origine, c'est horrible, hein, mais ça fait seulement 3 ans que cette théorie n'est plus... proposé ou envisagé, mais dans le monde psychiatrique, on nous a expliqué que les origines de l'autisme étaient par rapport à une maltraitance ou une carence maternelle, exclusivement maternelle, en tout cas principalement maternelle.
Donc c'est la mère qu'on incrimine,
voilà,
jamais
c'est
le
ça.
Père.
Et en général, ils faisaient en sorte de séparer la mère de l'enfant parce qu'elle était forcément mauvaise pour lui. Et moi, j'expliquais qu'en fait, il n'y avait pas de carence maternelle puisque j'en faisais beaucoup et que je la prenais beaucoup et qu'on était très proches. Et ils m'ont dit, voilà, ben, vous faites pire, en fait. C'est exactement la même chose. Vous faites le contraire, donc vous faites pire.
Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on est maman et que des grands pontes de la pédopsychiatrie nous assènent ce genre...
Le problème, c'est que comme ce sont, comme vous dites, des grands pontes, ce sont des personnes qui sont reconnues, qui ont étudié et qu'on va en plus payer pour avoir des réponses. Même mon entourage pouvait être en droit de se poser des questions si j'étais vraiment une bonne maman et si j'étais vraiment... C'était assez difficile, j'étais un peu seule contre tous et en même temps, moi aussi, je doutais. Hein. J'ai beaucoup douté, je pensais vraiment que j'étais une mauvaise mère. Alors, j'ai eu des petites périodes où j'ai rejeté ma fille parce que...
L'assumez parfaitement, ça.
Hein. Ouais, mais c'était difficile. Mais,
je comprends.
Avec du recul aussi, mais elle m'en veut pas.
Alors, quand vous dites que vous la rejetiez, ça veut dire quoi ?
Je lui en ai voulu d'être comme ça. Elle me renvoyait le fait d'être comme elle était, me renvoyait le fait que c'était sûrement de ma faute. Et quand elle parlait pas, par exemple, c'est pas arrivé souvent, mais il y a un moment où j'explique dans le livre que je l'ai secouée en lui disant « tu vas parler, c'est quand même pas compliqué ». J'étais folle de rage contre elle. Ou quelquefois, je pouvais être un peu dure. Allez, avance. Elle avait un peu peur de marcher à certains endroits parce qu'il y a des endroits escarpés. Et je pouvais la secouer un peu en disant « ah bon, c'est bon, maintenant tu peux monter ». Ou monter à une échelle aussi. Dans le livre, elle doit monter sur un bateau. Il y a des enfants de 2 ans qui arrivent. Et elle en avait plus de 10 et elle était incapable de monter à cette échelle. Et j'avais honte. Tout le monde me regardait, tout le monde la regardait. Elle poussait des cris et j'avais honte de cet enfant. Et en même temps, bah elle est comme ça. Voilà, et aujourd'hui, bah je dirais, bah elle ne montera jamais. Voilà, bah, tant pis.
« Ma fille est une princesse, écrivez-vous, qui ne monte pas les échelles. »
Ouais, mais ça c'est une petite phrase, mais pour dire, écoutez, voilà, il y a des personnes qui sont différentes et c'est à nous de nous adapter.
Nos enfants parfois nous tapent sur le système, hein, de toute façon. Hein, enfants différents ou enfants plus dans la norme, et encore, c'est quoi la norme ? Mais c'est vrai qu'on est toujours culpabilisé en tant que maman, et je pense que la culpabilité maternelle est la pire des morsures. C'est pour moi la plus grande des douleurs. Et j'ai eu beaucoup de compassion quand j'ai lu votre livre parce que je me suis dit que vous vous étiez fait vous-même beaucoup de mal. On vous a fait beaucoup de mal en vous faisant culpabiliser, mais il y a en vous un terrain de la maternité qui est un terrain chancelant un peu.
Tout à fait. Et je pense que j'ai été mon pire ennemi. C'est avec moi-même que j'ai été le plus dur. Et ce qui est fou, c'est que là, en m'exposant comme je suis en train de le faire, mais ça a commencé il y a 2 semaines, j'étais terrifiée du regard des gens et de ce qu'ils allaient pouvoir me renvoyer. Parce qu'en fait, la pire des juges, c'est moi avec moi. Et je pensais que tout ce que j'étais capable de
vous infliger,
de m'infliger, je pensais que c'était ça qu'on m'a... Et en fait, pas du tout. Les gens ont été vraiment bienveillants, gentils. Et comme quoi, quand on est vraiment sincère et vulnérable, ça n'attire pas la méchanceté, apparemment.
Non, et puis c'est profondément humain. Quand j'ai lu votre livre, je pense que j'aurais réagi de la même façon.
En fait, voilà, on n'a pas envie de m'attaquer plus, donc ben tant mieux. Et puis ça, si ça peut aider certaines mamans aussi qui sont passées par là, c'était aussi ça. Je me dis que moi, à l'époque, j'aurais sûrement aimé peut-être lire ou entendre parler d'une maman qui avait l'impression d'être complètement perdue et seule. Il y avait cette idée quand même de solitude, même si j'ai été accompagnée par le père de ma fille et sa belle-maman, qui heureusement ont été vraiment très importants. Mais voilà, on n'est pas tout seul à vivre des choses comme ça. C'est important de partager.
Eh bien, ils sont en train de nous écouter, justement. Je ne parle pas forcément de votre ex-mari et de sa compagne, mais tous ceux qui ont besoin sûrement d'être éclairés. On va faire un tour par l'information sur l'antenne d'RTL, Hélène, et puis on va se retrouver juste après. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Jusqu'à 15h30, en compagnie de notre invitée Hélène de Fougerolles. C'est aux éditions Fayard que vous retrouverez son livre « T'inquiète pas, maman, ça va aller ». Ça va mieux, Hélène hein ?
Oh ben ça va très bien.
Bon, ça c'est génial. Votre fille, Shana, c'est l'héroïne à travers ces pages hein, d'une aventure que vous avez vécue toutes les deux. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une façon de faire connaissance malgré les différences. Vous savez, quand on a des enfants, l'évidence ne va pas toujours de soi. Et c'est vrai que nos enfants sont autres. Ils ne nous appartiennent jamais véritablement. Et Shana, elle vous a fait quand même l'affront d'être, d'être assez inaccessible pendant tout un temps. Et puis on se rend compte au fur et à mesure du temps que vous vous rapprochez l'une de l'autre et vous vous connaissez davantage. Quelle image aviez-vous de la maternité avant d'être... Parce que votre livre, c'est votre parcours aussi. Hein. C'est non seulement votre histoire avec Shana, mais c'est aussi votre parcours en tant que fille d'une maman originale, je dirais.
Originale. Alors, elle m'a montré tout ce qui était la liberté, le plaisir, la joie.
Avant tout.
C'est quelqu'un qui a rayonné par tous ces côtés-là, qui n'était pas du tout maternelle, c'était pas du tout son truc. Elle a dû faire des enfants parce que, voilà, comme tout le monde. Mais ça n'a pas été ce dans quoi elle a le plus brillé. C'est vrai que peut-être aussi, souvent on fait comme ses parents où on fait exactement le contraire et il se trouve que j'ai pris moi la deuxième option. J'ai voulu faire exactement le contraire.
C'est-à-dire que vous aviez une maman qui voyageait, une maman qui bougeait, une maman qui était là, qui n'était pas toujours là. Vous aviez votre grand-mère qui prenait le relais quand elle n'était pas là. Vous étiez une petite fille, quand je parlais de nomadisme, vous étiez une petite nomade aussi, hein, presque une nomade de l'affection, non ?
Oui, et puis elle a vécu sa vie, alors elle avait des amoureux. Il se trouve qu'aujourd'hui... J'ai presque eu plus d'amoureux qu'elle, hein, finalement, parce que c'était quelqu'un à l'époque, c'était la liberté totale de pouvoir avoir des amants, de pouvoir faire autre chose que d'être femme au foyer. Et il se trouve que aujourd'hui, elle serait totalement... Elle était moderne à l'époque, mais aujourd'hui, franchement, elle est presque has-been. Non, c'est une blague. Mais en tout cas, elle a choisi cette vie-là un peu avant tout le monde. Alors, c'est vrai que...
Mais pour une petite fille comme vous, c'était pas toujours très, très sécurisant, je dirais.
Voilà, je dirais que... En plus, j'étais assez émotive et vulnérable. Je me sentais peut-être un petit peu parfois manque de sécurité, manque de fondation. Mais à côté de ça, je vous dis, c'est la joie de vivre incarnée. Je sais que ça, je l'ai pris d'elle, hein, et ma fille aussi. C'est quelqu'un de lumineux, souriant, qui voit toujours le verre à moitié plein. C'est vraiment merveilleux d'être entourée de personnes comme ça.
Mais votre mère a vécu libre, affranchie, je dirais, du regard de la société, hein, parce que c'était une maman qui parfois n'était pas là, et puis allait vivre à l'étranger, et puis redébarquer. Donc votre mère était libre du regard des autres. Et vous, en voulant non pas reproduire ce schéma-là, mais produire un schéma différent, vous avez été confrontée justement à des injonctions, alors que votre mère, elle s'en foutait des injonctions.
Ça, c'est sûr. Je pense qu'elle aurait bien aimé être comédienne quand même, et c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Il y a des grandes chances, mais c'est vrai que moi je me suis retrouvée beaucoup plus regardée, on va dire, que ma mère, qu'elle se foutait complètement du regard des gens.
Et ça, pour le coup, c'est une vraie différence. Est-ce que la façon dont vous avez été élevée aussi par votre maman vous a fait vous interroger sur le rôle de la maternité quand vous êtes devenue vous-même maman de Shana ?
Il est tout à fait possible que je me sois dit, je ferais exactement le contraire de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, moi je vais être une maman qui va vraiment être présente, qui va s'en occuper. Après, la vie, elle n'est jamais là où on l'attend, sinon ce ne serait pas drôle. Mais j'avais prévu, moi, de rester avec mon mari, de rester mariée, d'avoir une maison de campagne. Et puis, bon, les choses ne sont pas du tout passées comme ça. Donc, j'ai plutôt été une maman célibataire, parce que je suis beaucoup plus restée célibataire qu'en couple. Et puis, une semaine sur deux avec ma fille, mais... Quand je l'ai, je lui fais même encore aujourd'hui son goûter. Je m'occupe vraiment d'elle pendant toute la semaine et à plein temps.
Est-ce qu'on arrive dans cette Alors, très belle, mais épreuve quand même de l'enfant différent. Est-ce que l'on arrive à avoir sa propre vie aussi?
Justement, comme j'avais ma fille une semaine sur deux, je me permettais, la semaine où j'étais pas avec elle, de vivre autre chose. Et heureusement que j'ai eu ça, parce que je sais
votre
pas
votre métier, les tournages...
Oui, des amoureux.
Ouais, c'est important. Ouais,
ouais. Non, non, mais heureusement,
j'ai
eu vraiment...
Parce qu'il y a ceux qui nous écoutent aussi et qui sont confrontés à cette problématique au quotidien et qui n'ont pas réussi à avoir un espace personnel.
Tout à fait. Et moi, ma carrière, c'est vraiment aussi grâce au père de ma fille et à sa femme, qui m'ont permis aussi d'aller tourner. Quelquefois, c'est eux qui gardaient Shana peut-être un peu plus, et moi, je la récupérais après. Bon, il se trouve que grâce à mon métier, les tournages, c'est jamais aller plus de 5 mois par an, donc vraiment, le reste du temps, je pouvais m'occuper de ma fille. Mais c'est aussi un espace de liberté que de vivre mon métier d'actrice. J'adore faire.
Vous êtes pleine de gratitude envers le papa de Shana et sa compagne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont été là à un moment où vous n'en étiez pas capable?
Ils ont toujours été là. C'est vraiment quelqu'un que, bizarrement, j'ai choisi, le père de ma fille, parce que c'était quelqu'un de fiable. Et je savais qu'avec lui, je sais très bien voilà, où
il se place. Mais face à l'épreuve, parfois, certains partent. Là, il a été là.
Lui, c'est la fiabilité même. Et il se trouve que la chance qu'on a eue, c'est qu'il est tombé amoureux de... Elle s'appelle Virginia, en vrai, qui est quelqu'un d'aussi notre... Enfin, qui a été mon bouclier, mais qui a été quelqu'un qui nous a portés dans toute cette histoire.
Est-ce à dire que lorsque l'on a un enfant différent, on trouve et on puise sa force aussi dans un entourage?
Alors là, heureusement
que ça peut, ça peut nous confronter à une forme de solitude aussi.
Non, mais j'aurais jamais été capable de gérer des choses comme ça. Donc là, c'était un socle. En fait, on est vraiment trois. D'ailleurs, quand on rencontre des personnes qui sont pour les rendez-vous qu'on doit faire médicaux ou autres pour Shana ou même dans son école, on est toujours trois, donc c'est un peu déstabilisant pour les personnes, mais on est
Shana a sa maman, son papa et sa belle-maman.
Et sa belle-maman, on est un trouple. C'est presque ça.
Autour de Shana.
Ouais, et c'est très important pour Shana d'avoir ces trois personnes avec elle.
On va se retrouver dans un instant parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on voit dans votre livre, c'est l'humour. Vous nous parliez de votre maman qui était la joie, et en fait l'humour, ça vous a vraiment réunis toutes les deux, hein, visiblement. On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
Flavie Flamand.
Entendre.
14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Alors, il y a quelque chose, moi, qui me touche aussi, Hélène de Fougerolles, vous êtes notre invitée jusqu'à 15h30, c'est que parfois dans l'épreuve, parfois lorsque les choses sont vraiment lourdes à porter, parfois lorsque on a le cœur qui pisse un peu le sang, on arrive quand même à rire. Et le rire et l'humour, c'est quelque chose qui vous a réuni avec votre fille, malgré la différence.
Alors moi, je tiens à dire que j'ai vraiment ces deux côtés. Je suis quelqu'un d'assez... j'aime bien rire, je suis assez joyeuse, plutôt positive, solaire. Et puis, j'ai eu des petits moments... des grands moments, un peu parfois difficiles, mais j'ai aussi cet autre côté qui a toujours été là. Et Shana a ce côté justement solaire, elle est drôle, on adore faire des blagues, se dire des... Je lui apprends en fait l'esprit, c'est-à-dire de dire quelque chose qui n'est pas forcément adapté ou approprié, mais à s'amuser, je lui dis voilà, c'est exactement à cet endroit-là que tu dois dire cette phrase, et elle apprend à manier ça, et elle le manie de mieux en mieux, même avec moi.
L'humour, elle vous rate pas d'ailleurs, hein, Shana?
Ah oui, elle me rate jamais. Mais
aujourd'hui, elle s'exprime tout à fait normalement.
Alors,
parce qu'on sait, votre livre, pardonnez-moi, mais commence sur effectivement ce premier trouble du langage.
Elle ne parlait pas jusqu'à l'âge de 5 ans et demi. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, elle parle, mais elle a sa façon, elle, de parler. Par exemple, elle peut me dire maman, t'as fait le goûter à moi. Elle va tourner les phrases où maman, j'aime toi. Voilà, il y a des tournures de phrases qui ne sont pas forcément dans le bon sens, mais j'aime bien, c'est poétique. Et puis, surtout, tout, je lui apprends, oui, à mettre des petits trucs d'humour qui sont pas attendus à certains endroits et à certains moments. Alors, il y a aussi, parfois, c'est un petit peu grossier, mais on aime bien.
Ouais, ça fait du bien.
Mais elle manie très très bien l'humour, elle sait bien le faire.
Vous dites qu'elle a appris l'humour, est-ce qu'on peut aussi, à un moment donné, face à des enfants différents, les pousser à repousser leurs limites, tout en les respectant? Est-ce que l'on peut faire grandir quelque chose chez un enfant différent dont on se dit au début, bah voilà, la communication n'est pas simple, et pourtant, parce que moi, ce que j'ai lu dans vos échanges, je me dis, moi, j'ai très envie de la rencontrer, parce que je pense que ça, j'ai l'impression que ça fuse.
Ouais, et alors elle a des moments, hein, c'est...
Est-ce qu'on a une forme de fatalité, en fait, quand on a des enfants différents, ou est-ce qu'on décide parfois de défier les pronostics?
Ah, en tout cas, elle a sa personnalité, elle a toujours cette personnalité un petit peu coquine, et donc elle peut de plus plus en plus se développer parce que je lui apprends justement à être là où on ne l'attend pas ou à pouvoir poser des... Par exemple, là, elle me dit, c'est mon anniversaire, on va peut-être être confinés et j'essaie de lui faire tourner ça en disant, bah, t'as qu'à venir à l'école, en disant, parce qu'elle voudrait qu'on lui souhaite. Et je lui dis, bah, t'as qu'à dire, ah, c'est vraiment embêtant ces histoires de reconfinement par rapport à mon anniversaire pour que les gens comprennent qu'en fait, tu veux être célébré ce jour-là. Voilà, j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a des façons de s'exprimer avec des tournures de phrases, avec, oui, de l'humour partout où on peut.
Est-ce qu'elle vous surprend ?
Oui, bien sûr qu'elle me surprend. On a des vrais dialogues, on a des vraies questions, on a des vrais... elle se reprend beaucoup. Alors, je lui ai un peu habituée à lui faire voir le verre à moitié plein aussi. Donc, souvent, elle me dit, oh, je suis fatiguée. Je fais, ouais, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'essaye de lui monter en positif tout le temps les choses et elle est très comme ça maintenant, elle devient.
Et puis, c'est une jeune fille dont on sent qu'elle débute dans la vie avec peut-être un wagon de retard. C'est une jeune fille qui a eu un apprentissage progressif qui n'est pas forcément aussi rapide que des enfants qu'on pourrait considérer, que d'aucuns considéraient plus dans la norme. Mais c'est une jeune fille qui a eu ses phases aussi. C'est-à-dire que l'adolescence, elle a décidé un jour d'être amoureuse.
Là, elle est très...
Mais
elle
je trouve
très...
ça génial. Ouais. C'est, non, mais c'est important parce que je me dis, pour ceux qui nous écoutent, une jeune fille différente qui, à un moment donné, dit « Bon, hé, moi, c'est bon, là, maintenant, hein, les gars. Hein, je veux découvrir l'amour. » Je trouve qu'à chaque fois, votre fille vous a rappelé aussi qu'elle avait un cycle d'adolescence, par exemple, tout à fait normal. Elle vous a renvoyé dans les cordes sur deux, trois trucs aussi.
Oui, en fait, c'est vraiment les autres qui la trouvent différente, mais elle, elle traverse la vie avec les mêmes questionnements que peuvent avoir des ados. Il y a des moments aussi où elle m'a envoyé sur les roses. Hein, sa mère, c'est bon, je lui mets la honte. Elle m'a balancé pas mal. Et là, c'est vrai qu'elle est que sur des histoires d'amour. Il n'y a que ça qui l'intéresse.
Oui, mais c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'elle s'octroie le droit de vivre comme tout le monde et elle est traversée. Je trouve, enfin, j'imagine que pour vous, c'est quelque chose d'assez agréable en même temps de voir.
C'est agréable et en même temps, j'espère vraiment qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va être comme elle. Tant que j'arrive à lui présenter. Alors, elle veut aller en colonie de vacances, mais en même temps, elle n'arrive pas à suivre. Alors, c'est un peu délicat. Je vais tout faire, en tout cas, pour qu'elle puisse s'épanouir. J'aimerais lui. Avec le confinement, c'est difficile, mais j'aimerais lui organiser, parce qu'elle adore se déguiser, mais faire des fêtes, des booms avec des jeunes comme elle. Qui sont un petit peu différents, avec des particularités, et faire qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent se rencontrer. Ça, je vais bien m'en occuper, je pense que je vais réussir à lui organiser ça.
On va se retrouver dans un instant, Hélène de Fougerolles, sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30,
Flavie Flamand sur RTL.
Hélène de Fougerolles, est-ce que le déni qui a fait partie aussi à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas voulu voir pendant tout un temps que Shana était une jeune fille différente. Est-ce que le déni est une étape nécessaire selon vous ?
J'espère non. Moi, j'ai géré ça comme j'ai pu, donc ça a fait partie de ma vie. Ouais, je voyais que ce qui m'arrangeait, puis surtout comme je voyais que ce que je n'avais pas envie de voir était tellement trop gros que je préférais pas m'attarder dessus, peut-être. C'était difficile de ne pas comprendre, en fait, de ne pas avoir de réponse.
Donc, ça a été nécessaire pour vous ? Ça a été une façon de vous préserver ou pas ?
C'était tellement inconscient. Vraiment, c'était un vrai déni inconscient. C'est « Ah bon ? Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi ?» Non, je voulais vraiment pas voir ça.
Vous en avez voulu à tout le monde à ce moment-là, quand vous étiez dans le déni, d'essayer de vous ouvrir les yeux sur une réalité ?
Personne ne m'ouvrait les yeux. Vraiment, c'était
impossible.
Incroyable. Non, il y a eu même, je vous dis, on a vu beaucoup de docteurs qui trouvaient que tout allait très très bien. Peut-être une copine, je le raconte dans mon livre, qui a un anniversaire, m'a dit que ma fille était un peu bizarre et je lui en ai beaucoup voulu de me dire ça. Peut-être que les autres n'osaient pas m'en parler. Je me fermais très vite. Je donnais pas accès aussi à ce qu'on me parle de ma fille parce que il y avait plein de questions qui allaient venir après et auxquelles je n'avais pas de réponse, comme qu'est-ce qu'elle a? Et
je
pourquoi
ne sais pas.
Et le pourquoi était forcément de ma faute. Il y avait plein de choses où je ne voulais pas qu'on rentre dans cette faille-là, en fait.
Aujourd'hui, vous le dites, cette expérience de vie et cette maternité vous poussent à agir dans ce sens. Hein. On va en parler dans un instant avec les maisons de Shana. Et ce que vous comptez faire, ça vous a ouvert aussi à l'hypnose, qui vous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, vous êtes aussi hypnothérapeute. Ouais. Donc, c'est quand même un morceau de vie qui vous a permis de prendre un virage, quelque part, et de vous engager. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message à travers ce livre ? Par exemple, sur le déni, il y a sûrement des parents qui nous écoutent et qui ont vécu cette période-là?
C'est, le déni, c'est tellement fort que je pense que si on m'en avait parlé à l'époque, j'aurais pas compris de quoi on me parle. Ouais. Ce que j'ai envie de faire passer, c'est réjouissez-vous d'avoir des enfants différents, d'avoir des enfants ou des personnes autour de vous qui vous font voir les choses autrement. Vous savez, il y a des parents qui rejettent leurs enfants, même pour les transgenres, et au contraire, vous vous rendez compte de la chance qu'on a de pas rentrer dans un moule, de pas rentrer dans un cadre, et au contraire, d'avoir la chance de voir autrement. Le monde est tellement vaste et il faudrait avoir une façon d'être et une façon de faire, et au contraire, c'est un cadeau en fait. Ces enfants-là et ces personnes-là sont un cadeau. Il faut être assez intelligent pour savoir les recevoir, je trouve.
Il faut faire tomber des barrières intérieures aussi.
Des croyances, et puis vraiment, on a tous, comme on disait, des injonctions. On a eu des injonctions pour être d'une certaine façon, pour rentrer dans une norme, pour être accepté par la société, parce que il faut vivre en société et donc être accepté par elle. Mais au contraire, ça aide vraiment à grandir, à voir différemment, que de rencontrer ces personnes qui n'ont pas du tout le même fonctionnement et qui n'ont pas peur d'avoir honte, qui peuvent faire vivre des imaginaires. Les artistes ont beaucoup ça. Tout à coup, vous entrez dans leur univers.
Une sorte d'imagerie mentale.
Oui, vous voyez un film et en fait, vous allez dans le regard de quelqu'un. Quand on aime les films, on va dans le regard de quelqu'un. Nous, on ne voit pas le monde dans ce regard-là, mais tout à coup, on a accès à d'autres façons de voir et d'autres façons de penser. Et je trouve que ma fille, justement, m'a emmenée dans un endroit avec, je vous dis, on a des animaux sur les épaules, on est dans un monde un peu féerique, un peu poétique, et son monde existe puisqu'elle vit dedans et puisqu'elle est sur Terre et qu'elle y a sa place. Elle m'a donné un accès, justement, pour voir le monde d'une autre façon. Par exemple, j'ai appris à conduire il n'y a pas longtemps, j'ai un dragon au-dessus qui m'aide et je lui demande de m'aider. Alors après, il y a des personnes qui pensent qu'il y a la Vierge Marie, où on peut faire vivre qui on veut. Ça nous donne beaucoup de force d'imaginer qu'on, voilà, on peut créer tout ce qu'on veut.
Alors, si vous aussi, vous avez réussi à rentrer dans le monde de Shana, est-ce que vous avez cessé de vouloir la faire rentrer dans le monde tel qu'il est là, à l'extérieur du sien? Est-ce qu'il faut respecter la différence et cesser de vouloir toujours faire rentrer dans la norme?
Moi, je ne fais pas grand-chose, c'est que malheureusement, elle est obligée. Elle va à l'école, elle est obligée de prendre un transport pour y aller, elle est obligée de rentrer dans ce monde-là. Elle n'aura pas le choix de faire autrement. Maintenant...
Est-ce que ça se télescope, justement?
Mon but, c'est de faire que son monde à elle ait sa place. Je ne veux pas lui enlever ça, alors qu'on aurait tendance à faire non, mais c'est n'importe quoi, on ne parle pas avec des personnages invisibles, on fait comme tout le monde, on ne parle pas toute seule. Et au contraire, lui faire exister ça, mais en même temps, elle est obligée un peu de rentrer dans notre monde à nous pour pouvoir vivre en société.
C'est ce que vous voulez faire avec les maisons de Shana?
Alors exactement, il y a la maison de Shana qu'on va essayer de monter, et puis il y a toutes les maisons de Vincent. Ce serait formidable qu'on puisse en mettre partout d'autres en France, parce que c'est adapté à l'autisme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont formées pour aider à optimiser toutes les qualités, parce que ma fille, en fait, on peut passer des journées à lui montrer comment faire des lacets, elle n'y arrivera pas. En revanche, elle va vous retenir toutes les dates. Si on lui dit dans 15 jours, ça va tomber un quel jour, le 25 mars, elle saura exactement, elle sait retenir certaines choses, les livres, elle les lit deux fois, elle les connaît par cœur. On peut optimiser ces qualités-là et arrêter de l'embêter avec des choses qu'elle n'arrivera jamais à faire, ou alors qui vont lui prendre beaucoup de temps et surtout lui faire perdre confiance en elle.
C'est pour quand, ce projet?
Oh mon Dieu, j'aimerais tellement que ce soit bientôt. Je revisite une maison mardi prochain dans le sud de la France.
Génial.
Mais voilà, j'y vais avec Hélène, Médigue, et il faut qu'on trouve 1,5 million.
Ouais, parce que
ça va pas
déjà 15 000, c'est pas mal. Mais, non mais voilà, donc ouais. Ce sont quand même des entreprises indépendantes.
Exactement. Alors ce qui se passe, c'est que...
C'est la complexité de la chose.
Ouais, soit il y a des mécènes qui achètent cette maison, et puis eux, ça reste leur maison, et après ils peuvent la louer à la fondation. Ou soit, je ne sais pas comment on va faire. En même temps, je crois à mes dragons et à tout ce qu'il y a
aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Votre dragon est là ou pas?
Mon dragon est là. Et ceux d'Hélène aussi, ils sont beaucoup. Voilà, on se dit que tout est juste et ce qui doit être fait sera fait. Et s'il y a des rencontres qui doivent se faire, et s'il y a des personnes qui veulent mettre même à notre disposition des lieux. On a rendez-vous aussi avec Madame Cluzel.
Sophie Cluzel, qui est donc secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
Qui veut aussi voir comment elle peut nous aider. Donc écoutez... Voilà, il n'y a que des choses formidables qui vont se passer.
Eh bien, vous nous tiendrez au courant, s'il vous plaît. Beaucoup. Merci beaucoup d'être venue, Hélène de Fougerolles. Je rappelle votre livre « T'inquiète pas, maman », ça va aller aux éditions Fayard. À bientôt, j'espère.
Merci.
Tenez-nous au courant.
C'est l'heure de se souhaiter un bon week-end. On se retrouve demain dès 9h15 dans Nous voilà bien, votre magazine conso du samedi matin. On parlera pension alimentaire et plantes carnivores. Dans les deux cas, de toute façon, c'est mordant. Et puis lundi, dès 14h30, pour une nouvelle semaine de partage de philo et de réflexion. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bon week-end à l'écoute d'RTL.
RTL, on est fait pour s'entendre.